impressionné par BRICS et la situation finalement catastrophique en Espagne, avec néanmoins un espoir par rapport à l'organisation des personnes qui se regroupent et qui, du coup, arrivent à obtenir des choses inespérées. Voilà, bon, donc ça, c'est le caractère plutôt politico-social. Après, j'ai beaucoup aimé aussi l'esthétique de la brique et de voir toutes ces briques qui se fabriquent et qui finalement se retrouvent soudées et juste coupées à la fin, mais individualisées, mais toujours ensemble, avec quand même aussi un bémol par rapport à la situation qui montre qu'il y a quelque chose d'absolument dément de faire des briques et de les casser. Donc voilà, il y a plein de situations paradoxales en fait dans ce film et du coup c'est très intéressant et c'est agréable à voir et à revoir pour peut-être encore mieux comprendre certaines choses.
Est-ce que tu peux tout simplement nous dire la démarche, enfin plutôt comment, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film ?
Alors il y a plusieurs choses qui m'ont amené à faire ce film, mais d'abord c'est le fait d'être... aller en Espagne en 2011 au moment où il y a ce mouvement incroyable des indignés, les indignados, qui occupent toutes les places centrales des grandes villes et qui décident de dire qu'ils en ont marre de subir les effets de la crise et qui veulent changer la société, changer de politique. Et c'est un mouvement social vraiment très puissant qui contraste à ce moment-là vraiment beaucoup avec ce qu'on connaît en France, où on parle du Front National, où il y a quelques grèves, mais pas de mouvement aussi massif et généralisé à l'ensemble du pays du tout, quoi. Donc le point de départ, c'est ça, c'est essayer de comprendre pourquoi il y avait un mouvement aussi puissant qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, qui sont des pays qui ont été frappés d'une manière très similaire à l'Espagne par la crise financière des crédits à risque. Et pour comprendre ça, du coup, il fallait aller trouver les racines du problème. Et les racines du problème, c'est pas dans les mouvements comme les indignés qu'on les trouve, mais c'est dans l'économie. L'économie, en l'occurrence, c'est une économie qui a tourné pendant 10 ans autour de la construction de nouveaux logements. C'était vraiment un modèle de développement qui était celui du ladrillo, donc de la brique en espagnol. Et tout reposait sur le ladrillo. Construire plus, produire plus de logements, ça voulait dire aussi avoir du crédit, hein, donc faire venir des banques pour financer ça. Et c'est un quart de la production de richesse de l'Espagne qui s'est retrouvée fondée sur cette fabrication de logements, quoi. Donc voilà, le point de départ, c'est ça. Et puis après, j'ai pris ma voiture, je suis allé dans les régions... au sud de l'Espagne, au sud de Madrid, entre Madrid et Tolède, où on produit toutes les briques rouges. Et puis voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens, des ouvriers de la brique, des gens surendettés qui se battent contre les banques, des maires de villes fantômes. Et j'ai essayé de tisser ce film un peu mosaïque, quoi, sur la crise en Espagne.
Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait que le mouvement des indignés, mouvement politique, a pris une telle ampleur? Est-ce que c'est lié aux conditions de la crise ou à d'autres conditions? Enfin, d'autant que tu es sociologue, peut-être que tu as une analyse un peu de cette question-là.
En fait, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la violence en fait de la crise qui a été dramatique, très très brutale et qui a touché vraiment des millions de personnes d'une année à l'autre. Par exemple, en France, on n'a pas vécu les choses de cette façon-là, quoi, d'aussi subite. Une autre explication, c'est le fait que en Espagne, il y a eu des décennies de régime franquiste, donc des décennies d'extrême droite. Donc quand les choses tournent mal et quand la crise éclate, il n'y a pas, je pense, comme en France, cette tentation de l'extrême droite ou du Front National. Les gens se tournent plutôt vers autre chose. Et cette autre chose, c'était plutôt vers des solutions de gauche radicale, même si Podemos, ce n'est pas un parti révolutionnaire. C'est quand même une organisation politique qui veut dire autre chose que ce que le Parti populaire et le Parti socialiste ont essayé de dire pendant plus de 30 ans depuis l'effondrement du régime franquiste, quoi. Donc c'est l'autre raison, c'est ça, c'est-à-dire on veut pas que l'histoire se répète, on veut proposer autre chose, on veut faire de la politique autrement. Et peut-être le dernier, le troisième point, moi qui m'a semblé vraiment important, c'est la capacité en fait à créer des mouvements sociaux très créatifs, très imaginatifs, en intégrant par exemple les émotions, la révolte personnelle des gens, le sentiment d'échec à des assemblées générales où les gens finalement parlent de leurs problèmes privés, personnels, mais de manière publique. Et ils fabriquent comme ça un sujet politique collectif à partir de la colère additionnée de dizaines de milliers de personnes qui autrement resteraient isolées avec leurs problèmes, leurs idées noires, leurs envies de suicide, et parfois leurs suicides réellement, hein, parce qu'au début de la crise, c'était d'abord une vague de suicides avant de voir une vague de soulèvement. Donc c'est la combinaison de toutes ces choses-là qui a réveillé, je pense, aussi une combativité sur des terrains qui n'existaient pas auparavant. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en dehors de tout sentier syndical traditionnel, en dehors de toute entreprise, en dehors de tout parti politique, dès 2009, des milliers et des milliers de personnes se rassemblent pour attaquer les banques en considérant qu'ils n'ont pas à payer leurs dettes s'ils n'ont pas la capacité de les rembourser, quoi. Expliquer ça, ça veut dire expliquer ça par l'histoire, mais aussi la capacité à renouveler les façons habituelles de faire de la politique en faisant pas confiance ni aux partis politiques traditionnels, ni véritablement aux organisations syndicales, quoi. Donc ça, tout ça mis ensemble, ça fait vraiment un cocktail politique détonnant, quoi, hein, qu'on n'a pas en France pour le moment, même si depuis quelques semaines, le climat a l'air de vraiment changer, là, pour le coup. Hein.
Ouais, du coup, est-ce qu'on peut considérer que ce mouvement, quelques années plus tard, c'est un succès ou est-ce que c'est une demi-victoire ?
Moi, je suis convaincu que c'est d'abord un succès. Hein. C'est d'abord un succès pour plein de raisons, parce que ça a permis à des dizaines de milliers de personnes de sortir la tête de l'eau, de récupérer leur logement, que ça a inversé une sorte d'idée de fatalisme de la domination financière sur le reste de la société. Et c'est un verrou vraiment important qui a sauté de ce point de vue-là. C'est une sorte de mythologie aussi de la petite propriété pour tous, de la classe moyenne universelle qui s'est vraiment enrayée, et je pense pour un moment. Alors il y a plein de contradictions, on dit que la bulle spéculative immobilière repart en Espagne, c'est en partie vrai, etc. Mais globalement, c'est quelque chose de très positif. Et quand bien même Podemos s'institutionnaliserait complètement, quand bien même le Parti populaire resterait au pouvoir, quand bien même cette espèce de vague militante arriverait à un effet de seuil, ce qui est certain, c'est que pour plusieurs générations, il y a des gens qui ont été marqués par ça et qui se rendent compte que la mobilisation collective, ça sert à quelque chose. Et pas simplement les pères et les mères de familles qui se sont battus contre les expulsions, mais aussi leurs enfants. Parce que c'est un traumatisme, hein, de voir la police arriver, essayer d'expulser parfois l'équivalent des renseignements généraux, ils appellent ça la secreta, donc la police secrète qui arrive, qui frappe à la porte, qui essaye de voir si on peut pas expulser les gens, et les enfants qui doivent répondre à ce genre de choses, et ben voir qu'il y a 70 personnes dans le quartier qui se mobilisent au petit matin, avant même que le soleil se lève, pour empêcher cette expulsion-là, je pense que ça fait voir le monde différemment pour très longtemps. Et ça, c'est des choses qui marquent et qui marquent pour toujours. Hein. Je pense que quand on est quelqu'un d'assez jeune, on le voit dans les dessins d'enfants qui dessinent des maisons avec la population autour des maisons et qui comprennent, avant même de pouvoir le dire de manière extrêmement articulée, politique, claire, ils comprennent en fait qu'il s'est passé quelque chose qui les a soutenus, quoi. Et c'est une façon de voir la société qui, je pense, les marquera pour assez longtemps. Donc c'est positif, même si c'est une victoire un peu en demi-teinte, comme on dit, douce à amère d'une certaine façon, parce que le Parti populaire reste au pouvoir, que la loi n'a pas changé, et qu'il n'y a pas eu de condamnation pour le moment des banquiers, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment les deux aspects en même temps, quoi. Voilà.
Pour revenir au film, bon, le personnage principal, c'est une brique. Comment s'est passé le casting?
Bah alors, il y a eu beaucoup de casting. J'ai fait des auditions avec de nombreuses briques. Alors, certaines d'entre elles sont des briques un peu particulières, des briques qu'on appelle des pièces spéciales pour architectes, des briques d'angle. Certaines ont des noms de dieux grecs, selon les fantaisies des services de marketing des usines de briques. Donc, j'ai rencontré Hermès, Diane, Zeus, Poséidon même, je crois. Et il y a plein de briques qui m'ont semblé intéressantes. Alors, j'ai quand même une petite sympathie particulière pour la brique rouge, pour des questions de représentation politique, mais aussi parce que c'est la brique des quartiers populaires espagnols, et c'est aussi la brique qui représente quelque chose. On le voit ici, hein, autour de Lille, ou dans les films de Ken Loach, ou dans tous les films qui montrent la classe ouvrière anglaise. La brique, ça représente quelque chose aussi, c'est une identité sociale un peu particulière, quoi. Donc voilà, je me suis intéressé aux pièces spéciales, mais aussi à ces différents types de briques. Mais ce qui est étonnant, c'est que la brique, c'est un produit aussi de haute technologie. J'imaginais pas ça du tout. C'est vieux comme le monde, c'est fait avec de l'argile, de l'eau, du sable, c'est chauffé, tout ça. Donc il y a un peu les quatre éléments primordiaux. Mais c'est aussi quelque chose qui est peint avec des revêtements particuliers. Enfin, ça peut être très beau, en fait, la brique, quoi. Et c'est un type de matériau peut-être qu'on ne trouve pas assez et voilà, que certains architectes en Espagne utilisent pour faire une sorte d'architecture un peu plus humaine, quoi. Hein, voilà. Donc c'est tout ça, moi, qui m'a intéressé dans la brique, outre le fait qu'il y a des millions de tonnes de briques, c'est des cimetières de briques à ciel ouvert qui permettent de comprendre ce que c'est que la surproduction, quoi. Donc voilà, c'est la brique dans tous ses états, tous ses noms, de la naissance à la mort, quoi.
Ça a l'air d'autant plus parlant dans le cas de ce que tu veux montrer, la crise immobilière espagnole, parce qu'il y a une polysémie autour de la brique. La brique, c'est le matériau de construction, c'est le pavé contractuel qu'on envoie aux gens qu'on veut expulser. Tu l'as dit tout à l'heure, des espèces de poids morts immobiliers pour les banques, donc c'était un peu l'acteur idéal pour montrer ce que tu voulais montrer.
Ouais, effectivement, du coup, le casting visait en réalité à faire descendre sur terre ces grandes notions d'économie politique dont on parle souvent quand on essaye de comprendre ce que c'est qu'une crise, de montrer concrètement comment ça fonctionne, quoi. Et je pense que le cinéma, c'est là pour ça. Ça permet de montrer de manière un peu charnelle, viscérale, des grandes idées, quoi. Et en l'occurrence, le mot ladrillo en espagnol, donc brique, veut dire tant de choses qu'au bout d'un moment, on peut se perdre dans les spéculations philosophiques autour de la brique, et que c'est important de revenir à quelque chose d'un petit peu concret, en gardant en tête qu'effectivement, on n'est pas face juste à une crise financière, mais qu'il y a de l'industrie derrière, il y a toute une sorte de mythe de la petite propriété, que la brique, ça veut dire tout ça à la fois, quoi. Donc c'était une manière à la fois de redonner la parole à des gens qui sont un peu mis de côté en général, c'est-à-dire les ouvriers de l'usine, des usines de briques. Tout le monde parle de ladrillo en Espagne, mais personne ne va aller voir ces types-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Donc du coup, prendre les choses au pied de la lettre, hein, au sens le plus littéral, voilà, revenir à la brique, pas au sens d'actifs toxiques financiers, mais au sens de qu'est-ce que c'est, comment on la fabrique. Ça permet de comprendre que voilà, le capitalisme financier a des effets qui ne sont pas juste des effets théoriques, quoi. C'est bien concret, bien réel, et on le voit même quand on travaille dans une petite usine familiale de briques de Castille-la-Manche. Ouais.
On voit que le côté artistique et scénographique du film est quand même plutôt poussé, et je me posais une question. Il y a deux scènes où on a des surimpressions. Donc la scène avec les fusées et la scène où la caméra est fixée sur une voiture. Je me demandais quelle était la caméra utilisée pour cette voiture, en fait, parce que la définition de l'image était assez nette et on voyait bien la surimpression sur la vitre et en même temps le personnage. Du coup, j'ai trouvé ça assez dingue.
Ouais, alors ça, c'est vraiment la grande force de la chef opératrice avec qui j'ai travaillé pendant tout le long de ce documentaire, Cécile Baudénès, qui est quelqu'un qui a de nombreuses qualités artistiques, notamment celle de choisir des propositions de cadrage très subtil, très bien trouvé, mais aussi de proposer une maîtrise technique qui fait qu'il y a une bonne définition. Après, il y a le choix de la caméra, évidemment, il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. Mais voilà, je pense que la qualité de l'image, elle n'aurait pas été la même si je n'avais pas travaillé avec Cécile sur ce documentaire-là. Ensuite, voilà, les surimpressions, c'est aussi une manière d'essayer de comprendre comment est-ce que le personnage du maire essaye de rêver la crise. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui s'adaptent, et lui essaye de rêver, de s'en sortir en inventant un autre monde. La surimpression, elle est un peu là pour ça. Donc, il rêve. Et après, ce n'est pas une surimpression qui a été faite techniquement après, en post-production. On l'a tourné comme ça. Il est dans une espèce de planétarium gonflable, parce qu'il adore les planètes. Il est à côté de cette espèce d'antenne parabolique absurde qui tourne en grinçant à côté de la ville. Et voilà, il a des images de télescopes, de météorites, de satellites projetés sur le visage. Et dans l'autre séquence à laquelle vous faites référence, il y a, du coup, on a mis une ventouse sur la voiture, on a mis la caméra dessus et puis on a filmé quoi. Donc la netteté, c'est simplement la netteté de la réflexion des immeubles de briques de part et d'autre de la route qui se retrouvent sur le pare-brise et qui s'inversent par un effet optique dû à la courbure du pare-brise et qui donne l'impression que le maire se prend la ville en briques sur la gueule. Et voilà, c'est quelque chose qui moi m'a intéressé, c'est-à-dire d'essayer de montrer comment est-ce que ce maire qui perd les élections vit ça de manière un peu cinématographique quoi. Voilà.
Dernière question, est-ce que dans les motivations du film il y a l'idée que ça puisse alimenter ici en France ou ailleurs, je ne sais pas où sera diffusé le film, un certain militantisme, que ça puisse servir d'exemple, d'outil de lutte, de modèle de solidarité?
Bah, ce qui est sûr, c'est que la créativité politique dont font preuve les militants espagnols est quelque chose d'assez rare dans le paysage politique international, et notamment français. Pourquoi ? Parce que justement, en dehors des sentiers syndicaux classiques dont on parlait tout à l'heure, émerge une manière de faire de la politique, notamment à partir de la matière première des émotions et aussi en ouvrant les mouvements sociaux à quiconque s'y intéresse. C'est-à-dire les caméras sont les bienvenues, par exemple. Il n'y a pas cette peur des médias. Il y a au contraire, on va créer les médias nous-mêmes. On va diffuser les images de notre mouvement et c'est en étant toujours plus fort médiatiquement qu'on entraînera quelque chose. Donc au lieu de se protéger de l'image et de la diffusion et de la publicité, ils la créent eux-mêmes, cette publicité. Et ça, c'est une manière de renverser le stigmate qui n'est pas extrêmement fréquente en fait, dans les mouvements sociaux. On a peur, notamment aujourd'hui, on a peur de la répression. Mais on le voit très bien avec l'exemple des facs que le gouvernement de Macron essaye à tout prix d'évacuer par la force, avec des CRS ou de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en ce moment. On voit très bien qu'en réalité, c'est contre-productif, cette violence sociale. C'est-à-dire que quand on déloge une assemblée de 200, 300 étudiants grévistes, la semaine d'après, ils sont 1000, 1200, voire plus. Et ça montre aussi que les gens ne baissent pas les bras et n'ont pas peur, quoi. Donc voilà, cette créativité, cette combativité qu'on voit en Espagne, à mon avis, on peut tout à fait la voir germer en France ces prochaines semaines à l'occasion d'un mai 2018 réussi.